Notre rôle est plus humble qu'on ne l'imagine. Il est d'ordre moral. Je veux dire que notre ligne interne doit être inflexible et propre, qu'elle ne puisse pas encrasser les appareils que l'électricité spéciale qui nous habite emploie afin de sortir et de fabriquer sa lumière. Rien n'est plus complexe ni plus mystérieux que ce travail. Il exige un équilibre entre nos forces avouées et nos forces inavouables, si profondes en notre personne qu'elles nous surprennent autant qu'elles peuvent surprendre les autres.
Divergence FM, le 93.9, vendredi théâtre, comme tous les vendredis. Je suis avec Tito Livio. Bonjour Tito.
Bonjour.
Et avec Christopher, le petit nouveau qui arrive dans l'émission. Bonjour Christopher.
Bonjour.
Alors nous attendons nos invités qui sont visiblement coincés dans les embouteillages. Nous allons parler du Festafilm, le festival Amadis du film qui a débuté hier. Il y a beaucoup de choses dans ce programme du Festafilm et entre autres deux événements qui se passent dans des théâtres, donc au Carré Rondelet et à Pierre Tabar. Donc nous attendons Monsieur Avner Pérez qui est le directeur du Carré Rondelet pour nous parler de ses rapports avec le Portugal et de ses soirées. Beaucoup de choses dans ce Festafilm, des expos, des conférences et des films, bien entendu. Tito, toi qui as vu le programme, qui connais un peu le programme, tu peux nous en dire un peu plus. Tu viens de finir d'installer une expo sur le Fado qui est à l'espace Jacques Ier d'Aragon.
Place de la Révolution française.
Ce qui n'est pas pour nous déplaire.
Et ce qui est en pleine contradiction avec le Fado, qui n'y a rien de moins révolutionnaire que le Fado.
Mais c'est vrai que nous, à Casamadis, on aime bien le Fado. Et puis, ça faisait très longtemps qu'on voulait faire quelque chose autour du Fado. Et donc, une magnifique expo qui est en 20 panneaux, que tu viens de finir d'installer.
Oui. Donc, le Fado qui a été... Ça fait exactement un an, ça fait hier un an que l'ONU a reconnu comme patrimoine immatériel de l'humanité le Fado. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est la chanson de Lisbonne. C'est le folklore de Lisbonne, en fait, mais qui est... Alors, c'est très difficile à raconter d'où ça vient. Alors, il y a beaucoup d'influences et il y a des influences... mauresque et andalouse. Et surtout, ça vient de la musique africaine, en fait, par les esclaves. Et on croit savoir, parce que les premières notices qu'on a du Fado, c'est à la cour portugaise au Brésil, parce que le Brésil a été siège de l'Empire portugais pendant quelques années, à partir de 1808. Et c'est là qu'on a les premières références au Fado. Au Fado comme danse, d'ailleurs. Et en même temps, alors, ce qui est certain, c'est que c'est la musique des personnes des quartiers populaires de Lisbonne. C'est la musique des quartiers populaires de Lisbonne et qui est une bohème, oui, et qui est une... Le Fado, en fait, ça vient de fatum en latin, donc c'est le destin et ça raconte le destin. Alors... En règle générale, ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a le Fado de Ribatejo, qui est au Fado Corrido, qui est assez amusant et qui se danse, d'ailleurs.
Il n'y a pas un Fado à Coimbra aussi ?
Oui, il y a un autre Fado qui maintenant s'appelle plus Fado, d'ailleurs, ça s'appelle la chanson de Coimbra, parce que c'est... mais qui est celui des étudiants de l'université de Coimbra. Et le Fado qui est le plus connu par Amalie Rodrigues, entre autres, ou Rodriguez, pour que les Français comprennent qui c'est, est en fait un genre qui est celui des femmes de marins de Lisbonne, et donc les gens qui attendaient, les gens de la route des Indes, par exemple. C'est aussi des hommes qui sont au chômage ou qui sont rentrés des Indes et qui ont une vie bohème, la vie des marins au port aussi. Et donc, c'est de là que ça vient. Alors, les lettres de noblesse ont été obtenues par des grands musiciens qui se sont intéressés à ce genre-là. Et aussi par le fait qu'Amalie Rodrigues, et c'est là qu'elle est très importante, d'abord parce qu'elle est sans contestation possible. La plus grande chanteuse de tous les temps, et ça tout le monde le reconnaît. Parce
c'est
que,
la diva du fado.
Je sais pas, c'est comme Maria Callas pour l'opéra, après on peut discuter, mais voilà, en tant que tragédienne, c'est sans aucun doute la plus grande tragédienne de l'opéra. Là, c'est la plus grande tragédienne du fado, et elle a eu la brillante idée d'introduire des poètes littéraires, si on veut, sortir des poètes populaires qui ont sans mépris pour eux, mais introduire aussi des grands poètes comme Camões et David Mourão Ferreira et des gens comme ça.
Ça tombe très bien, puisque justement, on va voir tout de suite ce que ça donne, Amália Rodrigues, avec Camille, donc en fado, un poème de Camões.
Se não breves engano, oh, quem tanto pudesse que fartasse este meu do Rogério de Vingança. Oh,
Et oui, Amália Rodrigues, qu'est-ce que c'est beau, c'était un poème de Camões. Tu peux nous dire le titre en portugais?
Alors, c'est Erros Meus, ce qu'on peut traduire, il ne faut pas le traduire mot à mot, c'est « Oh, mes erreurs ».
Voilà. Et donc, nous parlons du Festafilm. Nous attendons nos invités qui, visiblement, sont pris dans les embouteillages. Nous attendons M. Avner Pérez, qui est le directeur du Carré Rondelet. Et nous attendons Ferdinand Fortes, qui est le directeur du Festafilm, Festival Amadis. Alors, du film.
On peut peut-être avancer sur la programmation. Cet après-midi, si vous vous intéressez à l'histoire, à l'Université Paul Valéry, il y a une conférence, M. David Leight, qui est attaché culturel de l'ambassade du Cap-Vert, qui va nous parler sur l'influence, et l'influence c'est décisive, des luttes d'indépendance dans la libération du Portugal du fascisme et de l'Europe par conséquence, puisque c'est à partir du Portugal que les pays européens qui étaient sous domination soviétique ou fasciste ont accédé après à la démocratie, si on se souvient bien, tout a commencé un beau jour, 25 avril 1974, au Portugal, suivi de la Grèce, suivi de l'Espagne et suivi de bien d'autres, parce que les démocraties en Europe, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque.
Alors David Leight, on l'avait reçu il y a un an et demi à Divergence, parce qu'il était passé à Montpellier pour faire une conférence sur le Cap-Vert et l'esclavage au Cap-Vert, si vous vous en souvenez. Donc, pour ce Festafilm, il y a une fenêtre ouverte sur donc, le Fado, mais aussi le pays à l'honneur, c'est le Cap-Vert. Il y a plusieurs projections qui sont prévues, entre autres autour de Cesaria Évora, Cap-Vert, donc ce petit pays lusophone.
Où tout a commencé d'ailleurs, parce que les premières organiser une résistance au colonialisme, ça part d'un certain Amílcar Cabral, avec, c'est vrai, des gens de l'Angola, etc., mais c'était le catalyseur, qui était capverdien, né en Guinée. Donc, le Cap-Vert peut s'enorgueillir d'être quand même la terre-mère de l'anticolonialisme, quelque part.
Alors, en attendant que nos invités arrivent, qu'ils se dégagent des embouteillages, on va écouter une chanteuse portugaise qui s'appelle Maria Teresa, qu'on aime beaucoup, nous, ici, et qui va nous interpréter « Petit pays ».
Saudade sem fim. μου στρέλα και κατά βρυλιάλι να μα μόη αρέλια και κατά μόια σπαϊόλες μου φόρα σ' ό,τι μάτε απόψη δυο μου τε μόνα την κολαδέρα τε απόψη δυο μου τε μπατού τε φουνανά σπαϊόντες μου φόρα σ' ό,τι μάτε απόψη δυο μου τε μόνα την κολαδέρα τε απόψη δυο μου τε μπατού τε φουνανά. Saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem mim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim.
Et c'était donc Maria Teresa avec ce titre Petit Pays. Je vous rappelle que vous êtes dans l'émission Vendredi Théâtre sur Divergence FM, le 93.9. Et nous attendons nos invités pour nous parler du Festafilm. Nous attendons Ferdinand Fortès et nous attendons Monsieur Avner Pérez qui visiblement est coincé dans les tramways. Il y a dû y avoir un problème, mais il est en route. Et je suis avec Tito pour nous parler de ce Festafilm. Ah, je crois qu'on me fait signe que Monsieur Pérez est arrivé. On va le laisser s'installer. Bonjour, Monsieur Pérez, donc le directeur du Carré Rondelet. Et on va parler de la soirée qui commence ce soir avec un spectacle, je vais retrouver la bonne page, de José Cruz. Installez-vous, Monsieur Pérez. Tito, on parle donc de ce festival, le Festafilm, qui a commencé hier et qui va se finir dimanche. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ce programme de festival et dans plusieurs lieux. Alors,
rapidement. Donc, il y a une masterclass Fado et cinéma cet après-midi que je recommande vivement avec Laure Antonio, qui était sélectionnée à Cannes il y a bien des années. Je suis assez vieux pour me souvenir de ça, qui est un grand, grand cinéphile, un grand spécialiste cinéma et qui a une grande qualité. C'est que lui, il est de la génération des Truffaut et des gens comme ça, même s'il est beaucoup plus jeune qu'eux, mais qui ont fait leur formation dans les salles de cinéma. Donc c'est quelqu'un qui est absolument passionnant, quelqu'un qui a tout vu et qui aime tout voir et qui va nous parler donc de façon extrêmement variée du fado dans le cinéma. Et c'est à 17h30 à l'espace Jacques Ier d'Aragon qui se trouve à Richter, donc toujours aux alentours de la place de la Révolution française, c'est rue des États Généraux, mais vous cherchez et vous le verrez.
Au 117 rue des États Généraux.
117 rue des États Généraux.
Monsieur Pérez vient de s'installer. Bonjour, il y a eu des problèmes de tramway d'après ce que vous m'aviez dit au téléphone. Parlez bien devant le micro. Et on va parler donc de la soirée qui commence ce soir au Carré Rondelet. Dans le cadre du festival, il y a donc le spectacle s'appelle
Hola.
Hola.
Voilà, oui, donc j'ai expliqué un petit peu le déroulement de la soirée, oui, qui démarre aujourd'hui. En première partie, il y a un certain nombre de films qui seront présentés, puisque nous sommes donc en partenariat avec le Festa Film. Trois films qui sont au programme d'une durée de 50 minutes. Et puis, ce sera suivi donc du spectacle de José Cruz, un one-man show portugais.
Franco-portugais.
Donc, ce soir, ce sera en français. Mais il y a une séance spéciale le dimanche à 16h au Carré Rondelet, donc du même spectacle, mais en version portugaise.
La lusophonie, c'est quelque chose qui vous concerne, je crois savoir.
Absolument, c'est ce que j'allais vous dire. Il était tout à fait naturel en ce qui nous concerne de nous associer au Festa Film, à la Casa Amadis. Une petite précision, dans la brochure, il est indiqué que, j'en profite pour le dire, mais tout à fait gentiment et de façon très bienveillante, il est indiqué que le Casa Amadis était donc la première association en fait existante à Montpellier. Il se trouve que j'avais créé en 2002 donc, l'association Cabo Mundo qui maintenant se consacre essentiellement au théâtre. Et donc à abandonner ses activités luso, si on peut dire. Voilà. Et donc je rends hommage aussi à l'association Casa Amadis qui a pris en quelque sorte le relais et qui a développé toute activité autour de la lusophonie, et puis aussi donc des activités du monde lusophone en général.
C'est vrai que Casa Amadis s'est créé en 2003, en fin 2003.
Voilà, j'ai oublié d'indiquer le nom de la nôtre, qui a toujours le même nom, c'est l'association Cabo Mundo. Donc, comme son nom l'indique, elle est à consonance très lusophone.
Alors, ça nous fait très plaisir de vous avoir à l'antenne, puisque le Carré Rondelet, c'est un théâtre qu'on aime bien, qu'on fréquente le plus qu'on peut à Vendredi Théâtre. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu le théâtre, parce que c'est la deuxième année que...
Oui, donc là, il s'agit en fait d'une troisième saison d'organiser. Le théâtre, en effet, bon, existe depuis 2 ans et je dois dire bon, que nous avons fini par travailler quasiment à plein temps. Au départ, le projet était de réaliser ou de concrétiser, si vous voulez, des projets artistiques de la Compagnie du Visage qui existait bien avant donc, l'installation dans les lieux du Carré Rondelet. Et en définitive, les choses se sont un petit peu précipitées. On a vu qu'il y avait une très forte aussi demande de la part des compagnies avec lesquelles nous travaillions à l'époque. Et donc, le programme s'est mis en place. Et nous sommes donc maintenant, on peut dire, un centre de diffusion de création artistique à la fois du CRU, c'est-à-dire ici, de la région, de la ville. Et en même temps, nous élargissons un petit peu. Mais nous n'avons pas arrêté nos activités de création proprement dit, puisque... Nous-mêmes, donc la compagnie Visage, organise régulièrement des rencontres autour donc, de créations, à peu près 2-3 créations par an. Voilà. D'ailleurs, ça va être le cas bientôt, je le dis, parce qu'il y a une création qui concerne le Portugal et que vous connaissez, je pense. Enfin, c'est une reprise d'un texte autour de la figure de la philosophe Hannah Arendt. Et donc, cette pièce tourne autour en fait, du séjour dans les années 40 d'Hannah Arendt au Portugal, précisément à Lisbonne, où elle a séjourné donc 3 mois. Et où elle est ensuite partie s'exiler aux États-Unis en pleine période barbare et difficile.
C'est vrai que le Portugal, dans ces années-là, c'était un petit peu une plaque tournante qui permettait de partir vers les États-Unis, de fuir vers les États-Unis.
Oui. Il y avait une grande effervescence à cette époque dans les années 40. Donc c'était en janvier 41 qu'Hannah Arendt a séjourné à Lisbonne. Et il y avait entre autres d'autres célébrités, hein, Chagall, Mahler, enfin bon bref.
Il y avait... Anna Mahler, oui.
Anna Mahler, oui, voilà, c'est Mahler. Ça, oui.
Il y a eu Brecht aussi, je crois.
Oui, Brecht est passé aussi. Donc il y avait tout un ensemble d'intellectuels, mais aussi de simples réfugiés. Parce qu'il faut le dire, hein, on le sait, bon, le Portugal était sous dictature, mais n'empêche que sur cette partie-là des réfugiés, parce que je crois qu'ils voulaient être bienveillants vis-à-vis de l'Angleterre notamment, le Portugal accueillait les réfugiés. Peut-être que Tito peut nous en dire un mot.
C'est-à-dire, Salazar a essayé d'éviter qu'ils viennent, puisqu'il était allié de Hitler de fait. Mais en point de vue de la signature internationale, il était l'allié de l'Angleterre. Donc il jouait sur les deux tableaux. Et en s'y faisant, bon, ça a bénéficié finalement aux pauvres gens qui, finalement, qui ne voulaient pas accueillir, mais qui finalement, il a accueilli quand même. Voilà. Mais très Salazar d'ailleurs. C'est très, mais aussi, il faut dire, et ça, bon, il faut rendre hommage quand même aux Portugais, eux. Parce que les Portugais ont très bien accueilli les gens.
Tout à fait.
Et ils se sont pris de pitié pour eux. Et c'est vrai que beaucoup avaient, quand même, il y avait beaucoup d'organisations internationales qui aidaient les réfugiés. Et donc, il y avait quand même de l'argent pour les nourrir et des choses comme ça. Mais les Portugais ont pris les devants. Et dans des hôtels et dans des endroits où ils étaient logés, les gens prenaient l'initiative de leur fournir le nécessaire en espérant être payés un jour. Oui, ce qui est quand même une attitude extrêmement humaine. Et le Portugal, comme le reste de l'Europe, avait des difficultés de guerre. C'est-à-dire, il n'y avait pas de sucre, il n'y avait pas de viande, il y avait plein de choses qui manquaient. Et les gens ont quand même nourri les réfugiés.
Alors, il faut penser que, excusez-moi, rapidement, je rajoute juste un petit mot, mais c'est vrai que nous sommes là pour le théâtre aussi. Et donc cette pièce rend compte un petit peu de cette période-là. Mais juste un mot, dire qu'à la même période, c'était Vichy en France. Uh-huh. Et donc l'attitude était complètement différente, puisque Hannah Arendt venait donc du camp de Gurs, où elle avait été internée. Et où elle n'avait pas été traitée de la même façon, donc
au
Portugal qu'on vient de citer. Voilà, donc cette pièce fait partie.
Et ce sera quand ça, au Carré d'André?
Alors, donc, elle va être reportée, si vous voulez, par rapport à la date qui est indiquée ici. Ce sera fin mars, début avril, dans le cadre de quelque chose d'assez large, où nous allons présenter toutes les. Enfin, ce sera une carte blanche à la Compagnie du Visage. Et donc, il y aura à la fois Hannah Arendt, Exil Atlantique, il y aura également L'étranger d'Albert Camus, que nous remontons avec le comédien Pierre-Jean Peters, qui avait au tout début fait une première version avec moi et qui revient vers moi, et je reviens vers lui. Et donc ensuite aussi d'autres créations de la Compagnie du Visage. Il y aura notre duo philo que nous avons mis en place cette année avec ces rencontres philosophiques, qui reviendra aussi à la même période, dans la période donc de carte blanche à la Compagnie du Visage, avec Olivier Morin. Et puis, éventuellement, une troisième création que nous sommes en train de mettre en place pour ce programme spécial de fin mars, début avril.
Alors, pour ce soir, donc, dans le cadre du Festafilm, je vous rappelle donc que les projections, ça commence à 19h.
Oui, si alors, les projections donc, dans le cadre du festival, c'est 19h. Ça se terminera donc une heure plus tard et nous enchaînerons sur le spectacle théâtral de José Cruz, qui donc vient présenter ce one-man show franco-portugais.
Monsieur Avner Pérez, merci de nous avoir accompagnés pour ce premier plateau. On vous recevra bientôt pour d'autres spectacles. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
Et on va se quitter avec Maria Teresa, Lusophonia.
Mesmo se diferem as origens, só uma expressão vem nos unir. Tá marcada em cada um de nós a mesma emoção, a mesma voz. Sensibilidade à flor da pele, arco-íris, cores da esperança, corações no tempo, pulsação, como sendo única nação. Timor-Goa, Madeira, Açores, Moçambique, Angola, Macau, Cabo Verde, Brasil, Portugal, língua mãe, lusofonia. língua mai lusofonia. No horizonte um novo pensar, toda estrela no céu seu lugar. Vida, história, luta, tradição, no destino de cada nação, clareando a nova manhã, desponta a alegria, nossa irmã, as cores em harmonia, a correnteza da lusofonia. Timocoa, Madeira, Soriz, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Brasil, Portugal, língua mãe, lusofonia, língua mãe, lusofonia. Moçambique, Angola, Macau, Cabo Verde, Brasil, Portugal, língua mãe, lusofonia, língua mãe, lusofonia.
Maria Teresa Lusofonia, Maria Teresa qui est décidément une chanteuse qu'on aime beaucoup et que Casamadis va essayer de faire venir l'année prochaine sur Montpellier pour un spectacle. C'est en cours, voilà. Vendredi Théâtre, ça continue. Nous ont rejoint sur le plateau Grazia. Bonjour Grazia.
Bonjour.
Robin, bonjour.
Bonjour.
Et je suis toujours avec Christopher. Et nous allons parler d'un spectacle, on passe de la lusophonie à l'Amérique latine, qui s'appelle Le Neveu d'Amérique, qui se déroule à Pierre Tabar. Et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Luis Jaime Cortés.
Luis Jaime Cortés.
Voilà, je savais que j'allais me planter. Mais c'est ma spécialité, d'écorcher les noms. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci.
Bonjour à tous et bonjour aussi aux auditeurs de Radio Divergence.
Alors, Le Neveu d'Amérique, moi je ne l'ai pas encore vu le spectacle, mais tous les autres chroniqueurs l'ont vu. C'est tiré d'un roman de Sepúlveda, qui est un écrivain chilien.
Exactement, c'est un écrivain qui s'appelle Luis Sepúlveda aussi. Et c'est, le roman s'appelle Le Neveu d'Amérique. En français, le titre en espagnol, c'est Patagonia Express.
Ah oui.
Oui, et dans Patagonia Express, il fait allusion à un train qu'il y avait à l'époque en Patagonie, que je crois qu'il encore existe, dans la Patagonie argentine et la Patagonie chilienne, qui faisait à peu près 300 km. Mais mettait 5 ou 6 heures pour faire 300 km, c'est pour cela le nom de Patagonia Express.
Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à adapter pour le théâtre ce roman ?
Bien, c'est un roman autobiographique de Sepúlveda. C'est un personnage qui a vécu les hauts et les bas de l'histoire, si on peut dire comme cela, particulièrement du Chili en Amérique du Sud. Eh bien, ce qui m'a convaincu que je devais jouer, adapter au théâtre ce roman, c'est que personnellement, j'ai vécu des choses. Et on a la pudeur de raconter des choses qu'on a vécues soi-même. Mmh. Et peut-être racontant les choses qu'on, qui, autres ont vécu, on arrive aussi à pouvoir parler de ces choses qui sont très importantes dans la vie d'un être humain, en tout cas la mienne, et aussi, bien sûr, celle de Sepúlveda, et en même temps, créer ou recréer, par le biais du théâtre, un devoir de mémoire. Et pour moi, c'est très important que la mémoire reste vivante pour éviter que les choses passent de nouveau et pour éviter que des choses vraiment tristes de l'histoire de l'Amérique latine qui se sont produites vers les années 70 dans des pays, pratiquement dans tous les pays de l'Amérique latine, puissent de nouveau réapparaître. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, l'espoir est grand, mais il y a des choses qui continuent à se passer, et pas seulement en Amérique latine, sinon ailleurs, un peu partout dans le monde.
Grazia, tu as vu le spectacle ? Tu peux
oui.
nous dire deux petits mots ?
Alors oui, j'avais voulu lire Patagonia Express en espagnol. Et franchement, j'ai eu beaucoup de mal avec l'écriture de Sepúlveda. Je ne suis pas rentrée dedans. Mais votre prestation, ça m'a vraiment réconciliée avec l'écrivain. Et je pense que je vais le relire. J'ai cherché un livre, j'ai encore un livre à la maison de lui. C'est une histoire de... Ça s'appelle Torero, je
sais. Torero, exactement, oui.
Exactement, hein, c'est ça. Mais bon, il est en français, donc j'ai commencé à le lire et je me suis dit, tiens, peut-être qu'il faudra le racheter, Patagonia Express en français, enfin Le Neveu d'Amérique, et le relire. Votre spectacle m'a ému, m'a fait rire, m'a fait sentir vivante. J'ai énormément aimé votre façon de bouger sur scène avec avec tout quoi. Vous êtes là, vous faites les 100 pas sur scène, vous bougez avec votre corps tout le temps. Vous faites énormément de mimiques. Tous les personnages que vous interprétez sont d'une réalité déconcertante. Voilà. D'ailleurs, vous dites à un moment donné qu'il y a 4 actes hein, dans ce spectacle. Il y a plusieurs scènes. Et chaque scène reçoit un traitement théâtral particulier. Mm-hmm. De quoi s'agit-il ?
Bon, avant tout, merci pour tous ces jolis compliments que je viens d'entendre. Bon, si effectivement, ma proposition fondamentale face au Neveu d'Amérique a été toujours la suivante. Quand j'écris un livre, ou quand il y a un livre, le livre s'adresse à un lecteur. C'est-à-dire qu'il y a un moyen de communication très précis. Le lecteur est seul, isolé, et il a le livre et l'imagination. Le théâtre, c'est pas ça. Donc, ma préoccupation fondamentale a été toujours de faire la transposition d'un texte qui n'a pas été écrit pour le théâtre, parce que c'est un roman autobiographique, les donner ou trouver d'une manière ou d'une autre les langages qui correspondent plus au moment théâtral. Donc, c'est pas évident justement de retrouver ou de découvrir plutôt ces langages qui peut-être va faire partager à une assemblée des spectateurs. Normalement, j'ai joué les spectacles plusieurs fois. Donc, parfois, il y a des salles qui sont énormes au niveau du public. Il y a des salles qui ont moins de public. Mais il faut que je fasse la possibilité ou qui donne la possibilité de transformer le langage littéraire dans un langage théâtral. Donc, le théâtre, il y a la présence de l'acteur, il y a les moments présents, les présents, hein, la présence et les moments présents, et la communication se fait ou se fait pas. Donc c'est pour cela que j'essaye dans tous les moyens de, d'accéder à cette théâtralité.
Avec vous, c'est impossible. Votre présence est débordante.
Oh bon, c'est encore. Merci. Merci.
Robin, toi aussi, tu as vu le spectacle.
Et c'est vrai que la présence et les mouvements, c'est quelque chose qui nous touche directement. Et c'est par ça, j'ai envie de dire que vous faites cette transposition du littéraire au théâtre. C'est-à-dire que chaque parole est associée à un mouvement. Et on le voit bien, vous faites de grandes enjambées à laquelle vous associez à chaque fois une pensée. Et c'est vrai qu'il y a une transmission visuelle, vous captez notre attention. Et en associant la parole au texte, c'est une manière qui fonctionne très bien de faire passer ce texte au théâtre.
Mmh. Mmh. Si, si. Je me suis toujours, disons, préoccupé pour trouver ce langage théâtral et surtout aussi pour faire une chose qui m'a énormément rendu content, heureux, c'est-à-dire des... pas seulement trouver un langage théâtral, sinon faire en sorte que par moment, des situations qui sont très difficiles dans les livres, qui sont des situations très difficiles sur scène, je puisse avoir toujours l'œil brillant, dirais-je, d'une certaine distance, pour ne pas rentrer totalement dans une espèce d'émotion débordante. Je veux toujours que ne pas rentrer dans cette dimension qui peut être très... très forte, mais bon, que les spectateurs terminent aussi avec son imaginaire.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, parce que c'est vrai que quand une émotion débordante nous prend, on rentre avec l'acteur dans cette émotion, et du coup, on oublie le reste, on oublie le contexte, on oublie ce qu'il vit, et on s'associe à une émotion. Et ça, c'est un risque de dispersion de la concentration et de l'attention du spectateur. Mmh. Et dans votre voyage que vous nous proposez, c'est vrai que c'est pas un voyage de plaisance. On est malmené, on est à la fois malmené, mais pas... Je veux dire, on est bousculé. On est bousculé parce que c'est pas notre culture, parce que c'est pas l'histoire qu'on a entendue. Et ce devoir d'histoire dont vous parlez, c'est vrai que moi j'opposerais, j'aime pas vraiment le terme de devoir d'histoire, de devoir de mémoire, pardon, mais il y a un devoir de mémoire individuel. C'est-à-dire que nous, on nous apprend l'histoire comme étant une succession de faits, une histoire officielle. Et là, à travers la littérature, à travers les rencontres et à travers le théâtre notamment, on a une autre dimension de l'histoire. On a une dimension de l'histoire qui est personnelle, qui est celle du vécu et qui nous permet de comprendre les choses qu'on peut pas comprendre. On peut pas comprendre la résistance des protagonistes si on comprend pas ce qu'ils ont vécu, si on comprend pas l'emprisonnement, si on comprend pas leurs émotions, leur rapport avec la famille. Et ça, c'est une dimension qui est prégnante dans votre travail de...
Oui, effectivement, je fais beaucoup d'attention à cela aussi, parce que effectivement, vous le dites bien, il y a quelque chose qui s'appelle l'histoire officielle. L'histoire officielle, c'est l'histoire racontée dans les livres d'histoire. Eh bien, ce que je raconte là, ce n'est pas une histoire officielle. C'est une histoire d'un vécu d'un homme qui s'appelle Luis Sepúlveda et, d'une certaine manière, dans d'autres circonstances, des choses... Je ne suis pas d'origine chilienne, je suis d'origine argentine. Donc, ce sont des choses que aussi, d'une manière ou d'une autre, je n'ai pas vécu exactement les mêmes choses, mais d'une certaine manière, il y a de grandes similitudes qui m'ont permis d'être plutôt... objectif face à ce processus. Donc, ce sont des choses qui ont pu exister ou qui existent ou qui continuent à exister. C'est pour cela que je parle de mémoire, de devoir de mémoire.
Et devoir de mémoire que tout le monde se doit, voilà. Quel que soit son pays aussi. C'est pour ça que c'est intéressant de mentionner que vous n'êtes pas chilien, et ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas s'intéresser
exactement
à la mémoire chilienne.
Exactement.
Christopher, toi qui as une formation d'historien, tu as vu le spectacle aussi?
Bien sûr, hier j'ai beaucoup apprécié. Je ne vais pas revenir sur toutes les émotions ressenties, je les ai ressenties aussi. Robin a mentionné le mot voyage, et je voulais revenir sur le thème même quand même de la pièce, qui est un énorme voyage à travers l'Amérique latine. Moi, personnellement, je me suis retrouvé dans différents pays. J'avais l'impression d'être sur place. Alors, c'est des voyages, c'est plusieurs petits bouts, je crois,
oui.
Associés. Alors, on passe par des situations cocasses qui sont hilarantes aussi. Alors, il y a des situations sérieuses, mais j'ai toujours l'impression que Sepúlveda garde quand même un certain optimisme à chaque fois qu'il ressort des difficultés de la vie, des difficultés de ses voyages, toujours en ayant un esprit de fraternité et d'avoir envie de profiter de la vie, d'aller de l'avant, à travers un voyage qu'on peut qualifier d'initiatique. Hein.
Tout à fait, tout à fait. C'est exactement, et merci pour votre commentaire, parce qu'il s'agit d'un voyage initiatique, c'est-à-dire un voyage que tout le monde devrait faire à un certain moment de sa vie, parce que ça, on apprend énormément de choses à travers les voyages. Et dans les livres, dans la pièce, dans les livres de Sepúlveda aussi, il y a... une grande il parle beaucoup de grands écrivains comme Fenimore Cooper, comme Robert Stevenson, comme Jules Verne, comme Emilio Salgari, qui sont des écrivains, en tout cas en ce qui me touche, que j'ai lu quand j'étais adolescent, comme vous tous j'imagine aussi, surtout Jules Verne. Et il y a des voyages là, hein.
Même avec à la Stevenson lune.
J'ai une toute dernière question. À la fin, vous restez assis sur une chaise longtemps, et quand même votre regard, on est happé par votre regard. Mais est-ce qu'il est triste votre regard à la fin? Est-ce que c'est un regard comment? Parce qu'on est sidéré, on est médusé par votre regard.
Bon. Et s'il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce que je fais, dans ce métier que je fais, que c'est le théâtre, c'est quelque chose qui est lié à la rencontre avec l'autre. Accepter simplement comme nous sommes et nous regarder, pour moi, c'est quelque chose qui est déjà un énorme pas vers la connaissance de l'autre. Et on partage, le plaisir de partager. Je vous ai raconté une histoire d'un long voyage qui commence quand les gamins, son grand-père lui dit qu'un jour il doit aller à Martos, son grand-père, un exilé espagnol, anarchiste au Chili, et son petit-fils, donc Luis Sepúlveda, revient quelques années plus tard, par ces choses, ces hauts et bas de l'histoire, à être un exilé politique en Espagne et visiter la ville où son grand-père est né, Martos, en Andalousie. Ça existe, je la connais. Et donc, voilà, c'est la rencontre. Pour moi, ça a été la rencontre d'abord avec les livres. J'ai eu la chance de connaître, de voir à plusieurs reprises Sepúlveda. Et aussi, c'est la rencontre chaque fois avec le public. Et la première chose qu'on fait quand on se rencontre avec quelqu'un, on se regarde et on partage.
Longuement.
Oui, longuement.
Je vais revenir au public. Quelles sont les réactions du public que vous avez une fois qu'ils ont vu le spectacle?
Très intéressant votre question. Je vais vous dire pourquoi. Il s'est arrivé, m'est arrivé de tout, hein, de tout. Mais il y a quelque chose qui m'avait énormément frappé. Une fois, c'était à Avignon, justement, dans le contexte du festival. À la fin du spectacle, j'attends le public. Parce que s'il a eu la patience de m'écouter et de me voir pendant une heure et demie, je dois le remercier. Donc, j'attends le public pour lui serrer la main à la sortie. Et je faisais ça et je parlais un peu avec les gens. J'adore parler. À la fin, je parle toujours. Et il y avait un couple, il y avait quelqu'un qui ne sortait pas de la salle. J'étais dans la porte et il y a le régisseur qui me fait signe comme... Alors je rentre de nouveau dans la salle et je vois le couple qui était profondément ému. Le monsieur et la dame pleuraient simplement. Bon, je dis des mots... C'est un peu particulier, mais bon, j'ai dit des mots pour essayer de les aider, etc. Mais je me suis dit dans ma tête, peut-être que ce sont des gens latino-américains qui ont vécu des choses similaires. Bon, quand la dame s'est calmée un peu, on a pu discuter, et je lui ai posé la question si c'était des origines latino-américaines. Il m'a dit non. Nous avons vécu en Algérie pendant la guerre. Et c'est tout ce qu'il m'a dit. Et je suis resté bouleversé parce que ça veut dire que quelque part, il y a eu aussi des choses comme toute guerre qui ont dû se passer là. Et c'est le spectacle qui a remué tout ça dans leur mémoire. Et c'était très touchant, très touchant. Une des aventures que j'ai eues après du spectacle, mais il y a d'autres.
Oui, vas-y, Katia.
On peut dire deux mots sur les masques qui sont magnifiques.
Si, les masques, voilà. Chercher un élément théâtral. Quoi de plus théâtral que les masques?
Bien sûr.
Voilà. Mais c'était encore une anecdote super belle. Je travaille depuis des années avec un réalisateur de masques, avec un facteur de masques qui s'appelle Den, qui habite à Perpignan. Donc j'habite à Paris, on se voit de temps à autre. Et quand j'avais lu le livre de Sepúlveda, l'idée m'est venue de monter la pièce, de créer un spectacle de théâtre. Je n'avais pas encore rien écrit, mais je lui ai donné le livre et je lui ai dit, écoute, ça m'intéresserait d'utiliser des masques, mais fais ce que tu veux. Deux mois plus tard ou trois mois plus tard, il arrive à Paris et me dit, je t'ai apporté ça. Et c'était exactement ce que je voulais. C'est des quatre masques. En plus, il savait que je ne pouvais pas mettre les masques sur le visage comme on en a l'habitude, parce que ça prend du temps. Donc, il faut que j'arrive à changer tout de suite. Donc, ce sont des masques faits avec une tige à l'style vénitien, qu'on appelle ça. Donc, je peux changer tout de suite pour changer de personnage. Et c'est lui qui a créé les masques, mais c'est juste... Tous les masques, par exemple, ont les moustaches. Et c'est très drôle parce que tous les latino-américains ont la moustache comme moi d'ailleurs.
On va rappeler que le spectacle s'appelle Le Neveu d'Amérique. C'est au théâtre Pierre Tabar. Décidément, une programmation assez exceptionnelle à Pierre Tabar, encore une fois. Donc, c'est à 21h, si je ne me trompe pas, jusqu'à dimanche.
Oui, et dimanche, c'est à 17h.
Et dimanche, c'est à 17h.
C'était voilà. 21h. Aujourd'hui, vendredi, et demain, samedi. Voilà.
Donc, a priori, l'équipe est tout à fait unanime pour ce spectacle. Courez-y.
Ouais.
Merci.
On va se séparer, puisque je vois que l'heure tourne. Gradia, tu nous as choisi quoi comme musique?
Eh bien, Volver, Adriana Varela.
Et on va se quitter donc avec ce morceau de musique. On vous souhaite une très bonne semaine théâtrale à tous et à la semaine prochaine. Et merci à notre invité de nous avoir accompagnés.
Non, merci à vous tous de m'avoir honoré venant à voir la pièce et m'inviter aujourd'hui à Radio Divergence.
À la semaine prochaine pour Vendredi Théâtre.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo, tuya es mi vida, tuyo es mi querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita las nieves del tiempo. Platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan en mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra vivir.